France Musique.
Quel scandale! Beethoven, une héroïque qui détonne. Ce soir, le public viennois n'est pas content. Beethoven non plus. Aux applaudissements clairsemés, il refuse obstinément de répondre, même par un signe de tête. Il reste là, debout devant l'orchestre qu'il vient de diriger, les traits tendus, crispés. À ses côtés, le pauvre concertmeister Franz Clément, premier violon et organisateur de ce concert, ne sait comment dissimuler son embarras. Depuis peu, le monde des compositeurs de talent et des interprètes virtuoses, jusque-là jalousement réservé pour la jouissance très privée des princes, archevêques et autres personnes de qualité, s'est ouvert à un public plus large, plus bourgeois, moyennant bien sûr l'achat d'un billet. Et c'est ainsi que, grâce au Theater an der Wien, Beethoven a acquis depuis 2 ans déjà une réputation solide. Solide pour tout, pour la musique de chambre, pour les concertos. On l'a même qualifié de plus brillant héritier de Haydn et de Mozart. Alors, une nouvelle symphonie, c'est forcément un événement pour le public viennois. Retranché dans l'ombre d'une loge, ce 7 avril 1805, j'avais, moi, Ferdinand Ries, disciple et ami très proche de Beethoven, pleinement conscience en écoutant l'Héroïka, d'assister à l'éclosion officielle d'une sorte de monstre, d'un monument absolument inouï qui bouleverserait les lois du genre musical. J'en avais d'ailleurs fait les frais personnellement au cours de la première répétition du premier mouvement. Juste avant la réexposition, le cor fait son entrée en solo sur le thème principal en légère dissonance avec le reste des instruments, 4 mesures avant la véritable entrée. Je me tenais à côté de Beethoven et, croyant que le musicien avait fait une entrée hâtive, je dis « Ce maudit cornice, ne sait-il pas compter ? Cela sonne affreusement faux !» Je crois que j'étais à 2 doigts de me faire chauffer les oreilles. Il a fallu du temps avant que Beethoven ne me pardonne. C'est dire que je m'étais préparé à l'incompréhension du public. Il n'empêche, ce soir-là, j'ai eu de la peine pour lui. Cette nouvelle symphonie de mon maître Beethoven, la 3e, trace en effet un nouveau chemin. Mais au goût du public du 7 avril 1805 au Theater an der Wien, il n'avait pas l'air de défiler assez vite. Dès le premier mouvement, on se tortillait sur son siège avec des coups d'œil interrogatifs. Tout de même, n'est-ce pas un peu longué ? Ni chez Haydn ni chez Mozart, un premier mouvement n'excède une dizaine de minutes. Allegro con brio, certes, Mais où veut-il en venir avec ces développements si intensément dramatiques, cette Durchführung interminable? On approche du quart d'heure! Et puis, le deuxième mouvement, Adagio, n'arrange pas les choses. C'est une extraordinaire marche funèbre, plus longue encore que l'allegro initial. Avant même d'atteindre son troisième mouvement, l'héroïque était déjà la plus longue symphonie qu'on ait jamais entendue. Qu'allait-il en être du final ? Le public était complètement déboussolé. Depuis un moment, je voyais Beethoven nourrir in petto des ambitions tout autres. En 1802 déjà, il ressassait. Je ne suis guère content de ce que j'ai écrit jusqu'à présent. À partir de maintenant, je veux ouvrir un nouveau chemin. Alors qu'attendait-on de lui au juste ? Qu'il suivît sagement cette filiation viennoise faite d'équilibre, de mesure ? Pour un génie de son envergure ayant dépassé la trentaine, était-ce cela le destin ? Les critiques, aussi perdues que le public, ne se privèrent pas de qualifier la symphonie héroïque d'assommante, de décousue, ou encore d'écrire que c'est une foule d'idées incohérentes et démesurées, un tumulte continuel, un amoncellement de pensées colossales. Même le critique de l'Allgemeine Musikalische Zeitung de Leipzig, pourtant admirateur très sincère de Beethoven, publia « Cette longue composition extrêmement difficile est à proprement parler une fantaisie sauvage, hardie et de très vastes proportions. Elle ne manque pas de passages frappants et de beaux thèmes où l'on est forcé de reconnaître l'esprit énergique et talentueux de son créateur. » Avant d'ajouter, « Très souvent, elle semble se perdre dans l'absence totale de règles, trop de couleurs vives et de traits bizarres font obstacle à une perception d'ensemble de l'œuvre et en détruisent presque l'unité. » Voilà qui est dit, voilà ce qu'on pensait. Mais pas question alors pour Beethoven de retrancher quoi que ce soit à sa partition. Il rétorque à qui lui fait observer le gigantisme de son œuvre qu'il la trouvera trop courte quand il en aura composé une plus longue encore. Et il le fera. Le défi et l'orgueil, c'est l'impression qu'il donna parfois de lui, et l'on put s'y méprendre, l'y réduire aussi. En vérité, mon ami traversait une crise profonde, intime et secrète. Nous ne l'avons su que plus tard, mais il se battait contre les premiers signes d'une surdité qui n'allait que s'aggraver. Dans une lettre datée du 1er juillet 1801, Beethoven, alors âgé de 31 ans, avouait déjà à son ami le docteur Franz Wegeler « C'est ainsi que depuis 3 ans, mon audition s'affaiblit. Au théâtre, je dois me placer tout contre l'orchestre. Je n'entends plus les sons aigus. J'entends les sons, mais ne peux comprendre les mots. À l'inverse, si quelqu'un crie, je ne le supporte pas. » Et je sais, moi, Ferdinand Ries, que l'espoir de guérison qu'il a nourri en se retirant quelque temps à la campagne, à Heiligenstadt, s'est vite évanoui. Dans un autre courrier au docteur Wegeler, il lui confiait aussi « Tu peux à peine croire quelle vie de solitude et de tristesse j'ai menée depuis 2 ans. Mon infirmité se dressait partout devant moi, comme un spectre, et je fuyais les hommes. À cause de cette surdité, on lui a attribué un tempérament solitaire, ombrageux. Il en avait conscience et en souffrait. Ô vous qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, comme vous êtes injuste. Vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. Dès l'enfance, mon cœur et mon esprit inclinaient à la bonté et aux sentiments tendres. Ah, comment pouvoir avouer la faiblesse d'un sens qui, chez moi, devrait être dans un état de plus grande perfection que chez les autres, d'un sens que j'ai possédé autrefois dans sa plus grande perfection, dans une perfection telle que bien peu de musiciens n'ont jamais connue. Heiligenstadt a donc été pour Beethoven le lieu sacré de l'abîme et du grand sursaut. Il y a contemplé sa propre mort comme une issue possible. Mais dans les faits, il a quitté Heiligenstadt plus déterminé que jamais à vivre et, selon ses mots, à donner au monde tout ce qu'il sentait germer en lui, à saisir le destin à la gorge. Se redresser, faire face, poursuivre le grand œuvre entamé. Voilà l'homme que j'ai appris à connaître. Heiligenstadt, il a ramené les premières esquisses de ce qui allait devenir sa 3e symphonie. C'est ainsi qu'il allait saisir le destin à la gorge. On pourrait dire que ces 4 mouvements sont ceux de son âme. Le premier, l'assurance éclatante du génie. le deuxième sa chute funèbre, les troisième et quatrième le redressement et le dépassement de soi. Mais en réalité, moi, Ferdinand Ries, ainsi que plusieurs de ses amis intimes, avons vu écrit en haut de sa partition Buonaparte et tout en bas Luigi van Beethoven. Pas un mot de plus. La voilà, la figure héroïque qui assiégeait l'imaginaire de Beethoven pendant la composition de sa troisième symphonie. C'était Napoléon Bonaparte. Il est vrai que Beethoven avait toujours suivi avec passion les affres de la Révolution française. Son idéalisme lui avait donné foi en cet homme extraordinaire qui avait su imposer l'ordre au chaos en si peu d'années. Un homme apparu à partir de principes républicains. Ah, la République ! Il espérait bien voir Bonaparte réaliser quelque chose de neuf. Quelque chose qui, mutatis mutandis, ressembla à la République de Platon, un État libre, au gouvernement duquel tous pourraient concourir par le suffrage universel, quelque chose qui pose enfin les bases du bonheur du genre humain. Mais au printemps 1804, quand Beethoven achève sa symphonie en hommage à Bonaparte, l'Autriche est en paix avec la France, grâce au traité de Lunéville signé 3 ans plus tôt, et Napoléon n'est que premier consul. Étonnamment, c'est devant un public aristocrate que Beethoven avait testé son héroïque. D'abord chez le prince Lobkowitz, qui lui manifesta beaucoup d'enthousiasme. Cet enthousiasme qu'il avait toujours montré à Beethoven, parfois jusqu'à l'idolâtrie. Puis auprès du jeune prince Louis-Ferdinand de Prusse, l'un des plus grands noms de ce royaume, qui, de passage à Vienne, allait la faire jouer 3 fois de suite. 3 fois! En voilà un qui avait des oreilles pour entendre, un vrai musicien et un vrai soldat. Sans doute eût-il aimé ce prince qu'une telle œuvre lui fût dédiée. Ironie du sort, il devait quelques mois plus tard mourir en héros sur le champ de bataille de Zalfeld, face aux troupes françaises du maréchal Lannes, l'une des 3 colonnes de la grande armée de Napoléon qui marchait sur la Prusse. Scandale! Trahison! C'est moi, Ferdinand Ries, qui dut porter à Beethoven la nouvelle que Bonaparte s'était sacré empereur sous le nom de Napoléon Ier et qu'il s'était coiffé lui-même d'une couronne de laurier en or. À Vienne, personne ne l'avait vu venir, et son annonce fit l'effet d'un coup de tonnerre. « Je vis alors Beethoven, profondément scandalisé et plus encore déçu, entrer dans une grande fureur. Ce n'est donc rien de plus qu'un homme ordinaire, lâcha-t-il. Maintenant, il va fouler aux pieds tous les droits humains. Il n'obéira plus qu'à son ambition. Il voudra s'élever au-dessus de tous les autres. Il deviendra un tyran. Puis il se dirigea vers sa partition, saisit la feuille de titre et la déchira de bout en bout avant de la jeter rageusement. L'ombre désormais maudite de Napoléon, planant sur la troisième symphonie, n'aura été qu'anecdotique pour Beethoven. Je crois surtout que le souvenir de cette dédicace initiale lui fit honte. Honte d'avoir accordé un tel crédit à une autre âme que la sienne propre. et c'est au prince Lobkowitz qu'il dédia finalement cette troisième symphonie. Un prince mécène qui s'était toujours montré si généreux et si fiable à son endroit. La page titre fut réécrite et s'exposa pour la première fois lors de sa publication en 1806 comme « Sinfonia grande eroica per festeggiare il souvenire di un gran uomo » pour célébrer le souvenir d'un grand homme. Un grand homme ou un géant ? Sa symphonie héroïque montre en plusieurs endroits, et en particulier dans son final, une longue série de variations et fugues inspirées du thème de son ballet « Les créatures de Prométhée » composé vers 1800. Les élans de l'œuvre, le spectre d'émotions qu'elle fait parcourir, tout a une ampleur nouvelle, une puissance de jaillissement prométhéenne. Prométhée, ce titan rival des dieux de l'Olympe, a osé leur voler le feu pour le donner aux hommes afin de les rendre plus forts. Il s'est volontairement exposé au châtiment divin par amour des hommes. Prométhée, n'est-il pas la figure mythique à laquelle Beethoven s'identifie pleinement ? La souffrance de Prométhée n'est-elle pas comparable à la souffrance de Beethoven, isolé dans sa surdité, qui offre la plus belle des musiques aux hommes ? Moi, Ferdinand Ries, c'est ce que j'aime à croire et c'est ainsi que je le verrai toujours.
France Musique. Quel scandale, Jérémy Rousseau.
Beethoven, une héroïque qui détonne, un miracle qui toujours étonne.
Thank you. Thank you. Thank you.
Nous avons entendu des extraits de Fidelio, de la 3e symphonie héroïque, des Bagatelles opus 126, du trio L'Archiduc et des Créatures de Prométhée. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr. C'était « Quel scandale !» Aujourd'hui, Beethoven, une héroïque qui détonne. Une émission de Jérémy Rousseau, réalisée par Claire Lagarde et préparée par Marion Guillemet, avec la collaboration de Laure-Hélène Dufournier. Prise de son et mixage, Jason Taous et Olivier Dupré. Quel scandale ! Et toutes les émissions de la série sont à réécouter et à podcaster sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.